Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Pour finir cette semaine, vous avez choisi de revenir sur le processus de succession en cours à la tête de la Banque mondiale.
Mais oui, après avoir évoqué la Banque de France et la Banque centrale européenne, il était intéressant de revenir sur le rôle et le fonctionnement de cette institution internationale qui fait parler d'elle ces derniers jours suite à la démission surprise de son président, l'Américain Jim Yong Kim. Une démission d'autant plus fracassante que ce dernier a annoncé à ses équipes qu'il quittait la Banque mondiale pour rejoindre Global Infrastructure Structures Partners, un fonds d'investissement privé de Wall Street où il pourrait, je cite, avoir un plus fort impact sur les grands enjeux mondiaux tels que le changement climatique ou le déficit d'infrastructures. Après avoir passé 6 ans à la tête de la Banque mondiale, Jim Yong Kim a donc fait le constat qu'il serait plus efficace et plus utile dans le privé. Un camouflet pour une institution qui a justement pour mission principale de mener des projets de développement avec une attention particulière portée aux enjeux de pauvreté et de lutte contre le changement climatique. L'establishment international est donc en ébullition pour trouver un digne successeur à ce financier au grand cœur.
On a d'ailleurs cru un moment avoir trouvé la perle rare.
Mais oui, pendant quelques semaines, le nom que tout Washington se murmurait pour remplacer le grand gourou du développement mondial n'était autre qu'Ivanka Trump, la fille du président himself. Une information qui a même été relayée par le Financial Times, réputé journal le mieux informé de la côte Est sur ces questions. Le président américain, qui ne cesse de prêter de glorieux destins à sa prodigieuse fille, a pourtant fini par se rétracter, admettant le risque de se voir accusé de népotisme par ses adversaires, un éclair de lucidité suffisamment rare pour être souligné et salué. C'est donc désormais David Malpass, un haut responsable du Trésor américain, qui est évoqué pour prendre la tête de l'institution, alors même que celui-ci s'est illustré à plusieurs reprises par ses sorties hostiles vis-à-vis des institutions multilatérales.
Il faut dire que le choix du président de la Banque mondiale est tout sauf démocratique.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque c'est de facto le président américain qui désigne unilatéralement le président de cette institution, une règle tacite qui se perpétue depuis plus de 70 ans et qui s'ajoute à un contrôle quasi total de l'institution par les Américains. Alors qu'à l'Assemblée Générale des Nations Unies, chaque membre dispose d'une voix, la Banque mondiale fonctionne, elle, sur un système de quote-part où un dollar investi rapporte une voix. Les pays les plus riches sont donc mécaniquement surreprésentés, mais contrairement aux actionnaires d'une entreprise, par exemple, les membres de la Banque mondiale ne peuvent choisir d'augmenter leur participation pour accroître leur pouvoir. Un système qui est donc parfaitement verrouillé par les grandes puissances qui peuvent s'assurer que les politiques menées respecteront bien leurs intérêts. Il faut dire que les États-Unis, qui disposent à eux seuls de 15% des votes, ont réussi à imposer un seuil de 85% des voix pour adopter les principales décisions. Une minorité de blocage qui leur permet donc de bloquer toute décision n'allant pas dans leur sens.
Un usage politique de la Banque mondiale qui est régulièrement critiqué, notamment du côté des pays en développement.
Oui, car l'institution pensée pour accompagner la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale s'est ensuite tournée vers le financement des pays en développement en fixant un certain nombre d'exigences et d'obligations en échange du versement de ces aides financières. La Banque mondiale et le FMI ont ainsi été accusés de se servir de leur rôle pour diffuser et forcer la mise en œuvre de réformes économiques néolibérales comme l'ouverture économique et la libéralisation des échanges contre l'accès justement à ces financements. Un rôle politique qui inquiète au moment où le prochain président doit être nommé par une administration ouvertement climato-sceptique et très opposée au modèle multilatéral. À moins que les autres pays ne profitent de ce moment pour tenter de remettre en cause la toute-puissance de la Maison-Blanche, ce qui reste à ce jour encore assez peu probable.
Merci beaucoup Arjuna, votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.